Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Il n'y a pas eu de Tour de France cette année, en juillet. Pas grave, Jean Castex, le Premier ministre, s'en est chargé tout seul. 23 déplacements en un mois et un jour depuis qu'il est à Matignon. Et quand ce n'est pas lui, c'est Emmanuel Macron, Gérald Darmanin ou encore le ministre vedette du gouvernement, Éric Dupond-Moretti. Un mois pour occuper le terrain, donc, au milieu d'une double crise sanitaire et économique. Un mois de controverse aussi, les manifestations contre le ministre de l'Intérieur sous le coup d'une plainte pour viol, d'abord classée sans suite, puis relancée. Macron, Castex, été bouillonnant avant rentrée brûlante. C'est le titre de notre émission ce soir. Nous attendons vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Pour y répondre, comme chaque soir, quatre invités. Bonsoir Roland Cayrol. Politologue, directeur du Centre d'études et d'analyse, le CETAN, votre dernier livre, Le Président sur la corde raide, apparu chez Kalman Levy. Vous êtes également directeur conseil de Région Magazine. Marie Gariazzo, directrice adjointe du département Opinion et Stratégie d'entreprise de l'IFOP. Vous avez dirigé avec Jérôme Fourquet ce livre co-dirigé en immersion, enquête sur une société confinée, c'est paru au Seuil. Frédéric Saïs, éditorialiste politique à France Culture, co-auteur avec Marion Lourd en 2017 de Dans l'enfer de Bercy, c'était chez Jean-Claude Lattès. Et puis Emmanuel Soufi, journaliste chargé des questions sociétales au Journal de Dimanche. La une de votre hebdomadaire le week-end dernier, L'été brûlant de Jean Castex. Tiens, on y revient. Bonsoir à tous les quatre et merci d'être avec nous. Un mois de gouvernement Castex, question simple, quand retenez-vous Roland Cayrol?
D'abord ce que vous avez dit, le Tour de France. On a un énarque qui n'est pas comme les autres. On a un énarque qui est maire de Prades. Et ça se voit, quoi. Ça s'entend et ça se voit. Il est assez naturellement dans les rues, avec les gens, dans les entreprises, dans les centres, un peu partout. Alors, il y a le mot d'ordre général. Il faut faire désormais de la proximité, il faut aller dans les territoires, il faut montrer qu'on est là, qu'on est proche des gens, qu'on les écoute. Mais on le fait avec plus ou moins de facilité. On sent qu'il y en a qui sont encore un peu coincés. Vous parliez de Dupond-Moretti, il n'est pas encore complètement à l'aise dans ce genre d'exercice. Alors qu'on a le sentiment que le Premier ministre, il a fait ça toute sa vie, parce qu'en effet, il a dû le faire comme maire. Et il le fait là, comme Premier ministre-maire. Et pour le moment, ça marche. Le problème est évidemment de tenir la distance. C'est pareil dans le Tour de France. Les premières étapes, il a bien gagné, il a le maillot jaune. Il faut tenir. Et tenir, ça veut dire aussi que comme on est amené à faire pas mal de promesses quand on voit des gens, il y a un moment où les gens se disent « alors qu'est-ce que ça a vraiment changé ?» On est plutôt content de ce qu'il dit, on le fait savoir, on le dit dans les interviews, mais qu'est-ce que ça change ? Est-ce que, oui ou non, alors on aura peut-être l'occasion d'en parler, c'est un premier pas vers un fameux acte 3 de la décentralisation ? Je ne le crois pas. Je crois que c'est un pas plus important vers la déconcentration de l'État.
Cette insistance sur les territoires qu'il met depuis
l'administration, on a vu que ce serait désormais les postes de fonctionnaires seraient d'abord réservés au territoire plutôt qu'à la région parisienne. Voilà, il y aura déconcentration. Il y aura sûrement un droit plus important à la différenciation, comme ils disent. Les départements, les collectivités locales auront le droit de faire des expérimentations qui durent, qui les différencient des autres. De là à ce que l'État soit prêt à transférer du pouvoir aux institutions locales, alors là, j'en suis moins sûr. Je ne suis pas sûr que le président de la République lui-même, que sa ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, soit très décentralisateur. Donc je crois qu'on va aller vers une forme assez nouvelle, un peu hybride, où on ne décentralise pas, mais où on va à la rencontre des gens, des élus locaux. On retrouve un peu l'esprit de la campagne présidentielle de 2017 de Macron, qui avait fait en général, dans tous ses discours, une ode au corps intermédiaire, aux élus, aux collectivités locales, puis qu'il avait un peu oublié pendant un an et demi, qu'il y est revenu. Il y est revenu sur le fond, dans une espèce de confession qu'il avait fait devant le Parlement réuni à Versailles le 11 juillet 18, puis ça n'avait rien changé. Ah, il y a eu quand même après les gilets jaunes, le grand débat national, la gestion de la crise Covid. Là, on s'est dit, Damned, il faut quand même vraiment, aujourd'hui, montrer qu'on est près des gens. Alors, c'est la phase actuelle.
Donc, un mois de Castex, les déplacements et une plus grande place faite au territoire, sans que ce soit une étape de la décentralisation. Marie Gariazzo, que retenez-vous, vous, du premier mois Castex ?
Alors, bah, qu'il y a une forme de surprise quand même, parce qu'initialement, quand il a été nommé, on s'est dit que c'était le même profil qu'Édouard Philippe. En effet, c'est un élu local, il est énarque, il est de droite. Donc, il n'y a pas de grand changement, on est plutôt dans la continuité. Ce qui d'ailleurs séduit une partie de l'électorat du centre et de droite, hein, qui est rassurée hein, par le fait qu'il n'y a pas une rupture globale, ni que Emmanuel Macron fait un grand virage, mais qui déçoit également ceux qui attendaient un virage écologique, un virage social, et qui évidemment sont déçus. Mais là où il y a une forme de surprise, c'est justement dans ses nombreux déplacements. En fait, il incarne l'action de façon très forte et en période de crise, notamment sanitaire et puis économique, c'est vraiment un registre qui est très attendu des Français. En fait, on n'attend pas quelqu'un qui justement est présent, qui occupe le terrain, qui est très visible. Et par ailleurs, cette visibilité aussi, elle lui permet de contredire un peu ce qui a été dit initialement au tout début lors de sa nomination, que c'était un Premier ministre fantoche, oui. Une forme de marionnette d'Emmanuel Macron.
Pour ne pas déranger le président.
Et en fait, ben, il imprime une forme de style bien à lui. Et puis, il est peut-être encore plus crédible qu'Édouard Philippe sur les territoires, justement, parce qu'il a des origines rurales. Et il joue, en fait, il contraste aussi très positivement avec Emmanuel Macron, qui est perçu comme quelqu'un d'hautain, de méprisant. Là, lui, il apparaît totalement accessible. Et puis, donc, il est crédité d'une certaine confiance. Mais en effet, il faudra voir dans la durée.
La suite. Emmanuel Soufi, un mois de gouvernement Castex.
Moi, au dé de différenciation, je rajouterais le R de réconciliation. C'est peut-être aussi l'un de ses objectifs, ou en tous les cas l'un de ses défis, celui de réconcilier le gouvernement, l'État très central, Emmanuel Macron avec ses territoires et aussi avec ces fameux corps intermédiaires, les syndicats. On va voir qu'il y a une espèce de marmite sociale qui se prépare quand même. Donc voilà, une forme de réconciliation. Et comme c'est quelqu'un qui est très il est très naturel, hein, il est assez spontané. Il a un côté un peu notable de province qui fait qu'on peut le trouver aussi assez sympathique. Il est très facile d'accès. Voilà, cette réconciliation passe aussi par un profil un peu en rondeur, mais qui sait exactement, il a dit, hein, je ne serai pas un simple collaborateur. Donc, il n'est pas simplement là pour faire œuvre de figuration. Donc, le R de réconciliation.
Le R de réconciliation, votre lettre à vous, Frédéric Seyss.
Je dirais que c'est le P de pas de prise de risque. Ouais. C'est-à-dire que là, on a un mois de juillet, un mois d'août, où finalement, c'est son moment, puisque les ministres sont en vacances, puisque Emmanuel Macron est à Brégançon, même s'il fait aussi des sorties. Et finalement, c'est le moment ou jamais pour Jean Castex d'imprimer cette image, parce qu'à la rentrée, ce sera beaucoup plus difficile. Il y aura évidemment le plan de relance, il y aura le budget, donc il sera obligé de rester à Paris, il sera obligé de rester au Parlement. Et là, pour le coup, jusqu'à présent, il a quadrillé le territoire, de Dijon à la Guyane, de Nice à Lille, chaque fois en promettant des renforts policiers ici, davantage d'attention là. Mais pour le coup, sur le fond, on attend encore de voir ce qui se révèle de la ligne de Jean Castex, parce qu'il dit « moi je suis pour le bon sens, bon personne n'est contre, je suis pour la sécurité, comment dire l'inverse, je suis pour la vigilance face au Covid ». Oui, évidemment, hier, notamment il était à Lille, il a fait un petit micro de 4 minutes avec les journalistes sur un seul thème, il n'a accepté aucune question, donc pour l'instant, il reste assez, selon moi, dans sa carapace, et on a du mal à voir ce qu'est le vrai Jean Castex.
Alors vous le disiez Frédéric, le dernier déplacement en date du Premier ministre, c'était donc hier à Lille, sur le thème du Covid, nouvel appel à la vigilance. Et aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui a quitté son lieu de vacances de Brégançon pour aller à Toulon, une visite sur le thème des personnes âgées et de l'aide à domicile. Bref, c'est un pouvoir qui s'affiche sur le terrain. Mathieu Lignot, Nicolas Baudry-Dasson.
Un seul été, mais deux rythmes différents pour l'exécutif. Jean Castex, constamment sur le terrain. Alors qu'Emmanuel Macron, discret, est en vacances dans le sud. Le président revenu dans la lumière politique, l'espace d'une journée. À Toulon, bain de foule et annonce sur le grand âge et la dépendance. De son côté, son premier ministre Jean Castex enchaîne les déplacements, emploi, canicule ou lutte contre l'épidémie de Covid-19.
Le virus n'est pas en vacances, nous non plus.
En un mois, le premier ministre a quitté Matignon une vingtaine de fois pour sillonner la France. Jean Castex encourage ses ministres à faire pareil. L'ancien élu Les Républicains veut aller au plus près des Français, comme ce jour-là, à Nice. Il est interpellé pour rétablir la sécurité dans ce quartier après une fusillade.
Nous, ça nous pourrit la vie. Et moi, j'en peux plus, je veux partir de ce quartier-là. Parce que ça n'arrête pas les incivilités.
La sécurité, c'est aussi et d'abord la proximité, terme qui m'est particulièrement cher.
Jean Castex ferme sur la sécurité et plus diplomate avec les syndicats. Les partenaires sociaux l'attendaient au tournant sur deux sujets brûlants. La réforme des retraites et de l'assurance chômage. La méthode Castex, le dialogue. Et aussi mettre sous le tapis temporairement ce qui fâche. La réforme des retraites est repoussée.
Ça correspond à notre volonté de ne pas faire du sujet des retraites un sujet de l'été et de l'automne, de plutôt se laisser du temps du diagnostic.
Ce qui reste un peu flou, c'est la manière dont on va reprendre des discussions, parce qu'on a rappelé au Premier ministre que les discussions, il y en a eu durant 2 ans et demi, et donc les positions, elles sont claires.
Le Premier ministre a annoncé la couleur dans sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Il veut éviter les conflits.
Mesdames et messieurs les députés, et ce sera notre première ambition immense, réconcilier ces Frances si différentes, les souder ou les ressouder.
Après un mois à Matignon, combien de temps va encore durer l'état de grâce de Jean Castex ? Selon de récents sondages, sa cote de satisfaction atteint en moyenne 49,4% chez les Français. Mais du côté des partis de l'opposition, ce Premier ministre et sa feuille de route ne séduisent pas.
Il nous dit « nous allons remettre en place ce que nous avons dérangé ». Mais au-delà de ça, je dois vous dire qu'il n'y a pas grand-chose.
En réalité, où est le nouveau chemin ? Enfin, on a vraiment l'impression qu'on est dans la continuité de la politique qui est suivie depuis 3 ans.
Pour les plus anciens d'ici, ça commence à me rappeler Raymond Barre avec Giscard et ça ne lui a pas porté bonheur. Lui aussi, c'était un Premier ministre inconnu. Soi-disant le meilleur économiste du monde. Lui, c'est soi-disant le meilleur technocrate de France. Je pense que le quinquennat va être très difficile, la fin du quinquennat va être très difficile pour ce gouvernement.
Prochain Conseil des ministres, le 25 août. Jean Castex devrait réduire le rythme pendant 10 jours et rentrer chez lui à Prades. Ne pas s'épuiser pour celui qui doit incarner le second souffle du quinquennat.
Plus de 49% de popularité au bout d'un mois, c'est une bonne cote, Marie Garriato ?
Alors oui, alors nous, dans nos sondages, il est à 55% quand on pose la question « est-ce que vous êtes satisfait ou mécontent de Jean Castex comme Premier ministre ?»
Oui, 49, c'est une moyenne de plusieurs sondages.
Oui, de plusieurs sondages, ouais. Puis avec des questions différentes. Ouais. C'est à peu près équivalent en fait, à l'arrivée d'Édouard Philippe quand il a été nommé Premier ministre. Donc c'est une cote de popularité ni extraordinaire, ni basse, en fait. Donc il joue un
et
peu
à jouer. Et on a des éléments sur les ressorts ce qu'il rend populaire et ses points de fragilité encore.
Alors évidemment, il est évidemment beaucoup plus populaire auprès des électeurs de La République En Marche et des sympathisants LR. Hein. C'est surtout eux qui font pencher la balance. C'est très clairement des traits d'image liés à sa capacité de dialogue, l'idée que c'est un homme de terrain aussi, ce qu'on a déjà dit par rapport à ses origines rurales. Et puis il y a aussi ce côté technocrate qui est souvent plutôt perçu négativement, mais qui là peut avoir certains... On le voit dans les études qualitatives, c'est-à-dire l'idée qu'on a un Emmanuel Macron dont le principal levier d'adhésion est l'identité réformatrice, et avec quelqu'un qui est technocrate, qui va pouvoir permettre qui a une très bonne connaissance des rouages administratifs, il y a peut-être l'idée qu'on va aller plus vite dans la fin de ce quinquennat. Mais encore une fois, ça, c'est quelque chose qui séduit un électorat du centre et de droite, et Emmanuel Macron joue sur cet espace politique-là, ce qui ne parle pas du tout à l'opposition.
Le fait d'occuper le terrain l'été, comme ça, Roland Cayrol, c'est réellement important vis-à-vis de l'opinion, c'est-à-dire que on peut imaginer qu'en ce moment, les gens ont d'autres choses en tête que de regarder les déplacements du Premier ministre, mais pourtant, c'est important pour marquer dans l'opinion.
C'est important, c'est comme la première phrase d'un roman. Si vous loupez la première phrase, les gens vont arrêter. Et donc, c'est très important de commencer bien. Alors, encore une fois, ça n'augure rien de la façon dont le jeu politique va s'organiser ensuite. Mais c'est très important de donner une image. Et en effet, c'est une image de Premier ministre qui est équivalente en quantitativement à celle du précédent Premier ministre, mais qualitativement très différente. Or, c'était ça qu'il s'agissait de montrer. Il s'agissait de montrer, alors on va voir, hein, mais il s'agissait de montrer que désormais, on va causer. Causer avec les gens, dialoguer, qu'on ne va pas faire tout seul. Moi, mon bouquin de sociologie préféré a déjà 40 ans, c'est Michel Grosier, et ça avait comme titre « On ne change pas la société par décret ». Et je crois que c'est profondément vrai. On ne change pas la société contre les gens, contre ceux qui l'animent, contre les associations, les syndicats, les collectivités locales. Et donc, il faut montrer que c'est ce message qu'on a compris. Et c'est très important de donner une image très différente de la simple technocratie que savait très bien incarner son prédécesseur. Là, il s'agit d'incarner d'abord cette volonté de faire avec vous, les gens, ceux qui vous représentent, vos territoires auxquels vous êtes si attachés. Donc c'est très important de montrer ça dès le départ.
Frédéric, c'est important de réussir le départ et on peut rater l'été. Depuis François Hollande, on sait qu'un été raté, ça peut être catastrophique et on peut le traîner de longues années derrière soi.
Au-delà de cet activisme et de la personne de Jean Castex, c'est vrai que ça révèle aussi une tendance un peu sociétale des Français. On a du mal collectivement à supporter désormais que les responsables politiques prennent des vacances parce qu'on se méfie d'eux, on a l'impression qu'ils ne travaillent pas assez. Et dans les années 60 ou 70, Pompidou, puis Mitterrand, puis Chirac pouvaient partir à l'étranger plusieurs semaines, tout le monde s'en fichait. Maintenant, il y a à la fois une accélération du temps médiatique et puis il y a le fait qu'on a toujours l'impression qu'en gros, ils ne font pas assez durant l'année et que donc l'été, il faut mettre les bouchées doubles. Et notamment François Hollande, effectivement, là je parle sous votre contrôle, sa cote de popularité de son premier été s'effondre au moment où il part en train à Brégançon comme un vacancier normal, c'était son mot à l'époque. On le voit en short et les gens se disent mais qu'est-ce qu'il fait? On vient de l'élire à l'Élysée et le voici qui barbote. Donc ça devient extrêmement compliqué. Il y avait un ministre belge, à mon sens, qui avait bien résumé cette chose qui peut s'apparenter à presque du populisme des vacances. Il disait, si on n'a pas besoin de 2 semaines de congé en août, c'est qu'on n'a pas assez travaillé le reste de l'année. Je crois que c'est assez vrai.
Rentrée réussie, premier mois réussi aussi avec les syndicats.
Oui, c'est vrai qu'un de ses premiers rendez-vous, ça a été quand même de rencontrer tous les partenaires sociaux. Alors, il y avait aussi péril en la demeure. Deux questions étaient très urgentes. Il fallait avoir des réponses. Ça concernait l'assurance chômage. Quid de cette réforme qui était décriée par toutes les confédérations syndicales? Et puis, l'autre dossier brûlant, c'est la réforme des retraites, évidemment. Donc, il était urgent.
Les deux sont décalés.
Allez, ben justement, c'était un peu Jean Castex a commencé par ça, en déminant le terrain, c'est-à-dire déminer parce que sinon, il se préparait un mois de septembre extrêmement douloureux sur un front social. Et aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas se permettre d'avoir une rentrée. Alors, c'est usuel de se dire que la rentrée va être toujours chaude. Souvent, on est un petit peu déçu, elle est nettement moins chaude. Le mois de septembre, les
nettement moins, c'est plutôt journalistes.
Voilà, et c'est plutôt au mois de décembre maintenant que ça se décale, ces rentrées-là. Donc, on fantasme un petit peu sur le mois de septembre. Le fait est que ces deux dossiers-là étant renvoyés, alors pas au calanque, hein, faut pas croire que c'est complètement enterré.
Vous l'avez pas lu comme un enterrement.
Ah non, sur les retraites, il a fait un petit pas en avant, mais il y a un petit pied qui est bien resté dans le socle, notamment sur la question financière, et qui risque de ressurgir au moment des débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais au moins, ils affichent en disant, bah écoutez, sur les retraites, on se reverra en janvier 2021, donc ça laisse plus de 6 mois, alors que le Premier ministre voulait rencontrer tout de suite, hein, je sais pas si vous vous souvenez, toutes les organisations syndicales et patronales dès le mois de juillet pour entamer à nouveau un cycle de réunions sur la question du financement parce que le déficit avec la conjoncture s'est creusé de 30 milliards d'euros. Donc c'est pas une paille, c'est assez important. Mais les syndicats ont dit non et là pour le coup il y a eu un sentiment d'avoir été écouté. En disant non, pas tout de suite, on verra plus tard, le gouvernement a entendu au moins cette revendication-là.
Ce qui n'était pas forcément le cas les mois précédents, l'impression d'être écouté. Roland Carole, on peut lire le déplacement d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Toulon comme un petit côté coucou, moi aussi, je vais sur le terrain, il n'y a pas que Jean Castex ou...
Non, je ne crois pas qu'il y ait de compétition entre les deux. Hein. Tout le monde sait qui est le patron. Mais le patron ne peut pas laisser faire simplement son gouvernement. Il les a envoyés à la bataille. Il est bien forcé de se mouiller un petit peu, de montrer qu'il est là, de nous renvoyer des cartes postales de temps en temps. Bon, il le fait. C'est encore une fois, tous l'ont fait. Oui. Voilà, c'est une habitude, à part les vacances lointaines de certains que Frédéric nous a cités. Voilà, on sait que désormais, ça fait partie des devoirs présidentiel de l'été, que de montrer qu'on est là et qu'on sort.
Et régulièrement, lors des déplacements, il y a des annonces, des enveloppes qui sont débloquées. Aujourd'hui encore à Toulon, 160 millions pour les professionnels de l'aide à domicile. On risque pas d'éparpiller le message?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en
matière... À multiplier comme ça les interventions, tantôt sur la sécurité, tantôt sur l'aide sociale, tantôt...
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en matière d'opinion publique, enfin, c'est compliqué pour les gens, ne serait-ce notamment par rapport au plan de relance dont on parlera certainement, oui. De faire une distinction entre les mesures d'urgence qui ont été menées pendant la crise sanitaire et puis le plan qui est annoncé. Enfin, ça, c'est une lecture qu'on peut avoir d'un point de vue politique, mais en matière d'opinion publique, on a des mesures qui se suivent et on n'arrive pas forcément à mettre le fil directeur. Oui, je pense qu'encore une fois, ce qui est important en ce moment, c'est d'être dans l'action. Je pense que c'est comme ça qu'ils occupent le terrain, qu'ils veulent montrer qu'ils interviennent et qu'ils sont très proactifs en matière de gestion de la crise sanitaire et de la crise économique. Après, que le message soit brouillé, c'est une possibilité, notamment sur les thèmes régaliens sur lesquels Emmanuel Macron est quand même assez mal à l'aise. Donc, du coup, voilà, mais je pense qu'ils veulent occuper le terrain parce que, compte tenu de la situation assez dramatique que nous vivons, il est important d'agir. Et c'est ce que les Français attendent.
160 millions, je le disais aujourd'hui, pour les aides à domicile. Il y aura assez d'argent. D'où vient l'argent? On a l'impression qu'à chaque déplacement, il y a une nouvelle enveloppe débloquée. On attend le plan de 100 milliards. Il y aura les sous?
Heureusement, il y a l'Europe. Vous avez quand même vu ce qui a été les 750 milliards d'euros qui vont être distribués. Alors, pas tout de suite, hein, ça va arriver à partir de l'année prochaine et sur plusieurs années. Hein,
et 40 pour la France.
Et 40 milliards sur cette énorme enveloppe pour l'Hexagone. Et Mme Macron l'a quand même dit à plusieurs reprises, il n'y a pas d'argent magique, ça ne pousse pas sur les arbres, sinon on irait tous cueillir des fleurs ou des feuilles. C'est la question de la rentrée et c'est la question qui va être la plus épineuse à résoudre. Parce que le volet recettes diminue et le volet dépenses, lui, devient assez gigantesque. Après, beaucoup d'économistes vous diront aussi que la France est plutôt bien notée, donc elle emprunte à taux zéro, voire même de façon inférieure, mais tout ça creuse la dette. Et la dette publique, elle s'envole à plus de 120%. Donc ça, c'est des questions qui vont être extrêmement délicate à résoudre, je pense, pour la rentrée. D'où cette réforme des retraites, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, qui est certes décalée, mais pas d'un point de vue financier. On peut tout à fait s'attendre à des mesures de travailler plus. La petite musique, elle n'est pas complètement éteinte tout à fait à la rentrée dans le cadre du projet de loi de budget de la sécurité sociale. Voilà.
Et d'ailleurs, le gouvernement a une chance, c'est que justement, ils ne sont plus tenus par ces critères, les fameux critères des 3% de Maastricht, qui obligeaient les gouvernements précédents à tout de même de manière très 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 au tamis chacune des annonces. Cette fois-ci, ils vont bénéficier de milliards et plus personne n'ira scruter si le déficit public est à 3,1 ou 2,9. Donc ils vont pouvoir distribuer de l'argent. C'est un avantage évidemment parce que vous pouvez éteindre un certain nombre d'incendies sociaux avec ça. C'est aussi un inconvénient parce que très vite ils vont aussi, le gouvernement, l'exécutif, être pris pour une sorte de Père Noël qui a un fonds illimité à distribuer. Ça peut créer des jalousies entre les corporations et ça peut donner le sentiment que s'il n'y a pas d'argent supplémentaire qui est mis à l'occasion d'un déplacement, alors c'est presque offensant pour la catégorie qui était revendicative.
Oui. Est-ce que je peux ajouter un mot ?
Roland Quirol, allez-y, vous êtes là pour ça.
Moi, il me semble qu'il y a de l'argent magique en ce moment. C'est-à-dire qu'après nous avoir confinés, nous, on est en train de confiner la dette. Alors, les économistes disent cantonner. Mais l'idée, c'est que l'ensemble de ce qui aura été lié à la crise, ce qui peut faire beaucoup de choses, y compris parmi celles qui vont arriver, vont faire une dette différente de la dette normale, je dirais, de la France, et que celle-là, on va la rembourser très tard. Pas avant 2028, en tout cas, et probablement beaucoup plus tard. Certains se disent même, peut-être jamais. Il y a eu des dettes qui ont été annulées. Et d'ailleurs, le destin commun des dettes, c'est souvent d'être annulé. La dette de l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale n'a finalement été annulée qu'en 1953. Donc voilà. Et donc je crois qu'il y a un peu cette idée. Voilà.
Donc pardon, si je résume brutalement, l'argent n'est pas un problème ?
C'est ce que je crois. Je crois qu'on est dans une période incroyable pour les raisons que vous avez dites. On emprunte à taux zéro, voire à taux négatif. Et que comme on va cantonner ce qu'on emprunte, ça ne fait pas vraiment partie de la dette. C'est comme quand on distingue dans les budgets ce qui est le fonctionnement et ce qui est l'investissement. On a fait un investissement, ce n'est pas de la dette de fonctionnement, c'est pour faire relancer notre pays, les autres aussi d'ailleurs, parce que le même raisonnement s'applique à tous les gouvernants européens en ce moment, et occidentaux, je dirais. Donc il y a cette idée, comptons pas trop. Quoi qu'il en coûte, nous avait dit Emmanuel Macron à propos de la crise sanitaire, Eh bien, on fait le quoi qu'il en coûte. Et on dépense. De temps en temps, d'ailleurs, je ne sais pas comment on calcule les 80 millions pour 326 000 les dents. Et on nous dit 1 000 personnes. Moi, si je divise 80 millions par 326 000, je trouve la moitié, 490 euros. Mais donc, j'imagine que ça sera différent.
160 millions, dont 80 millions financés par l'État.
Si oui, mais ça fait 160 au total. Et même avec 160, on arrive qu'à 490 euros. Donc, ça veut dire qu'il y en aura peut-être qui auront 1 000 euros, mais beaucoup auront nettement moins. Mais ça ne fait rien. Ça permet un effet d'annonce très fort.
Voilà. Ces grandes enveloppes, il y a beaucoup d'effets d'annonce.
Il y a toujours de l'effet d'annonce.
Et il y a ce chiffre totem, 100 milliards, le plan de relance au mois d'août. L'opposition commence à dire que c'est trop tard, qu'il faudrait relancer plus vite.
Et que ce n'est pas assez.
Et que ce n'est pas assez. Je ne sais pas si dans les enquêtes, vous avez des éléments là-dessus, mais au fond, 100 milliards, ça n'arrive pas tous les 4 matins, un plan de relance de 100 milliards. Qu'est-ce que l'opinion attend de ce plan-là?
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Déjà, je pense qu'il y a une vraie difficulté à identifier ce plan de relance. Ouais. Comme tel et à ne pas l'associer à des mesures qui ont été prises, notamment sur le chômage partiel. Et pareil, je rebondirai sur ce que disait Roland Cayrol, en matière d'opinion, la question de la dette n'est pas centrale du tout aujourd'hui. Au contraire, alors ces milliards, ces millions, on a beaucoup de mal à les appréhender, hein, c'est totalement abstrait pour l'opinion publique, mais quoi qu'il en soit, ça réinvite sur le devant de la scène le volontarisme politique. On se dit que si on veut, que si l'État veut, il peut. Et donc du coup, là où je rejoins ce qui a été dit précédemment, c'est que la façon dont cet argent va être utilisé et là où il va être mis, ça, par contre, ça va vraiment susciter une attention très forte. Mais la question de la dette n'est pas réellement problématique en matière d'opinion publique, si ce n'est avec une lecture très individuelle qui est la crainte de payer des impôts supplémentaires à moyen terme. Donc, mais à partir du moment où le gouvernement lèvera cette crainte-là, cette question de déficit public n'est pas la problématique actuelle de l'opinion.
Mais il y a l'idée qu'il y a une occasion presque historique d'utiliser de l'argent à coût modéré, si j'ose dire, et qu'il ne faut pas rater cette occasion et la mettre sur les bons
secteurs. Voilà, et c'est vrai qu'il y a, en tout cas, ce qu'on voit, nous, dans les études qu'on a pu mener sur le sujet, c'est qu'il y a une attente très forte de bien cibler l'usage de cet argent, et notamment que ce ne soit pas qu'un plan de relance pro-entreprise et qu'il y ait des contreparties qui soient attendues, notamment des plus grandes. En fait, il y a un problème dans la façon dont on aborde les entreprises, c'est que souvent, on les considère comme un bloc homogène. Or, en matière d'opinion, les grandes entreprises et les PME-TPE ne suscitent absolument pas les mêmes réactions. Il y a une défense très forte des TPE-PME et en revanche, une attente très forte d'un engagement fort des grandes entreprises. Et donc, il va falloir...
Notamment un pas licencié ou le moins possible.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une grande crainte de l'opinion publique qu'il y ait des abus excessifs qui aient lieu après tout l'argent qui a été accordé à ces grandes entreprises. Et on attend que ces grandes entreprises soient un acteur aussi engagé que l'État dans le plan de relance qui va venir.
Présentation le 25 août, il y a encore beaucoup d'arbitrage à mener, Emmanuel Souffi.
Oui, tout l'été, hein, d'ailleurs, souvent, Brégançon, enfin, Frédéric, je pense que vous le savez mieux que moi, les téléphones n'arrêtent pas, SMS, on fait des réunions avec les conseillers, des notes, des réunions informelles aussi avec tous les acteurs économiques, sociaux, associatifs qui vont être intéressés par ce plan. Ce plan, il risque d'être assez vaste, de regrouper aussi des mesures qu'on attendait, qui ont déjà été un peu dévoilées en juillet, notamment concernant l'emploi des jeunes. Aussi des relances, des aides en direction des entreprises. Hein. Alors, on ne sait pas si ça va être par secteur, puisqu'il y en a déjà eu. Donc, voilà, le risque de fourre-tout n'est pas complètement effacé quand même. Qu'on ait une espèce de grosse cagnotte. Et effectivement, il faudra tout à fait, enfin, vraiment expliquer aussi pourquoi. Pourquoi on le fait. Et c'est peut-être.
Mais donner du sens.
Voilà, donner du sens. Et c'est peut-être ce qui manque un peu aujourd'hui et depuis déjà quelques mois au gouvernement. Qu'on n'ait pas ce sentiment de saupoudrage, en fait. Ouais. Et de vouloir éteindre à chaque fois des incendies qui démarrent dans les restaurants, dans maintenant le secteur du cinéma, les intermittents.
D'ailleurs, il y a un incendie qui risque de démarrer à la rentrée qu'on n'a pas vu venir, je ne sais pas, dans l'éducation.
Oui, ça reviendra chez les enseignants, oui. Surtout sur les retraites. Il y a des revalorisations salariales qui ont été promises quand même. Mmh. On les attend.
Alors, dans ce gouvernement en place depuis un mois, il y a un ministre qui est particulièrement chahuté, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. À chacun de ses déplacements ou presque, il y a des manifestations de militantes féministes. Gérald Darmanin est sous le coup d'une enquête pour viol, classée sans suite dans un premier temps, puis relancée mi-juin par la Cour d'appel de Paris. Un premier mois difficile pour un ministre clé, Magali Lacroze, Aubry Perrault et Clément Voyer.
Un jour au Mureaux, un autre à Nice, et toujours en mouvement, à la façon d'un ancien de Beauvau, Nicolas Sarkozy, son mentor et ami. Gérald Darmanin occupe le terrain médiatique et sécuritaire, mais rien n'y fait. Où qu'il aille, il semble rattrapé par son passé. Dès sa nomination, des manifestations de colère ponctuent très souvent ses déplacements.
Sale violeur ! Darmanin, violeur !
Mis en cause dans une plainte pour viol en 2017, l'affaire est classée deux fois sans suite. L'appel est rejeté. En 2018, l'affaire sort dans la presse. Le ministre invoque la présomption d'innocence et reçoit la confiance de son président.
J'ai eu une discussion avec lui parce que c'est un responsable politique qui est intelligent, engagé, qui a été aussi blessé par ces attaques. Donc il y a aussi une relation de confiance, d'homme à homme, si je puis dire.
Il y a eu trois décisions de justice en trois ans qui me sont favorables. Alors il me semble qu'au bout de trois décisions de justice, on peut penser que j'ai le droit à la présomption d'innocence. Cependant, mais comme tout citoyen de notre pays, et peut-être encore plus que n'importe quel citoyen de notre pays, je suis à la disposition des magistrats, bien évidemment.
Et voilà que l'enquête est finalement rouverte en juin dernier, après intervention de la Cour de cassation. En 2017, Gérald Darmanin, alors chargé de mission aux affaires juridiques de l'UMP, aurait été approché par une militante pour l'aider à faire annuler une condamnation. Après une soirée commune, une plainte pour viol sera déposée, mais 8 ans plus tard. Depuis sa nomination à l'intérieur, la polémique grandit et c'est tribune contre tribune. Soutien de 167 parlementaires de la majorité et critique d'une ancienne garde des Sceaux.
C'est pas de savoir si c'est pénal ou pas, mais est-ce qu'on peut encore accepter qu'un homme, compte tenu de sa position, de son statut, demande des faveurs sexuelles ou des actes forcés en contrepartie de quelque chose? Je trouve que c'est quand même une atteinte grave à la dignité des femmes.
Et pour les associations féministes, un message contraire à la libération de la parole des femmes victimes de viol.
Ça va encore plus les décourager d'aller porter plainte. Moi, je vais être sincère avec vous. Quand je reçois des femmes et que je les accompagne dans leur parcours pour porter plainte, je leur dis que ça va être très dur, qu'elles vont sentir souvent que c'est la double peine. Il y a un problème énorme dans la question des classements sans suite des viols en France.
Premières adversaires du ministre de l'Intérieur, les associations féministes veulent faire rouvrir une autre enquête datant de 2015, affaire classée, elle aussi sans suite, à l'époque. Cet après-midi, un nouveau déplacement médiatique pour Gérald Darmanin en visite au commissariat de Toulon. Cette fois, aux côtés du président.
Frédéric Saïs, l'affaire de 2009 relancée, ça veut dire que Gérald Darmanin sera convoqué par un juge. Alors, sous quel statut, on ne sait pas. Sera très certainement convoqué par un juge. Peut-être comme simple témoin, peut-être mis en examen. Est-ce qu'il peut tenir ?
Pour l'instant, oui, c'est une information judiciaire. Donc, sur le plan judiciaire, pour l'instant, il n'a pas à craindre, jusqu'à preuve du contraire, de conséquences politiques tant que son statut ne change pas. S'il est mis en examen, évidemment, ça change absolument tout, puisque ça veut dire qu'il y a un faisceau de présomption concernant certaines de ces accusations. Mais il n'y a pas que le terrain judiciaire, évidemment. Il y a aussi le terrain médiatique. Si jamais il y a de nouvelles révélations, s'il y a de nouveaux témoignages, si l'une des accusatrices décide de se confier en longueur, par exemple à la télévision, ça crée aussi une dimension, évidemment, dans la société, dans la psychologie collective, qui change encore le regard. C'est à l'évidence un ministre fragilisé aujourd'hui. Il était censé être l'un des piliers les plus solides du futur gouvernement. Emmanuel Macron l'a placé là, justement, pour remplacer Christophe Castaner, qui lui-même avait montré des faiblesses dans ce ministère, évidemment, clé, après les Gilets jaunes et avant tout un tas de projets de loi qui arrivent à la rentrée, séparatisme. C'est aussi le ministre responsable des cultes, ouais, de la sécurité, du droit d'asile. Bref, c'est extrêmement exigeant et il faut quelqu'un de très solide.
Alors, pourquoi Gérald Darmanin était-il à ce point indispensable dans le dispositif pour qu'Emmanuel Macron prenne ce risque? Parce que cette affaire existait avant le gouvernement Castex. Pourquoi a-t-il pris ce risque? En quoi Gérald Darmanin était-il incontournable à l'intérieur? Roland Carole.
Je crois que Darmanin était incontournable au gouvernement. Qu'il fallait que Darmanin y soit parce que il a affirmé. Enfin, on voit sur vos images à l'instant, c'est le mimétisme avec Sarkozy est inouï. Et il avait fini par imposer cette image. Il était le nouveau Sarkozy. Et donc, il avait plutôt bien réussi au budget. Il avait gagné aux élections municipales, ce qui n'est pas le cas de beaucoup dans la majorité. Il fallait qu'il soit là. Il souhaitait quitter Bercy et tout le monde en était d'accord. Il avait été prévu d'abord qu'il ait un grand ministère des Affaires sociales. Et c'est lui, semble-t-il, qui a dit que finalement, il exigeait l'intérieur.
Donc il était en position d'exiger.
Il était en position de force, en tout cas. Il était ce ministre qui avait réussi et qui avait gagné au municipal et qui parlait fort et qui avait de bons sondages, plutôt. Et donc, voilà, je crois que Macron a dû hésiter un moment, je ne suis pas dans sa tête. Ouais. Mais voilà, il y avait une espèce de côté normal. Et je pense que personne n'a vu venir la réaction des groupes, de ceux des groupes féministes qui ont immédiatement dit, c'est d'ailleurs intéressant parce qu'elles l'ont très peu dit pendant qu'il était au gouvernement dans un autre poste, mais l'idée qu'il soit à l'intérieur, que donc il soit le premier flic de France, alors que c'est les flics qui doivent faire les enquêtes, ça passe pas. Mmh. Et donc quand vous posez la question, est-ce qu'il va pouvoir tenir, moi je ne sais pas, franchement. Juridiquement, oui. La présomption d'innocence, il faut la respecter dans un état de droit. Dans l'extrait qu'on a vu, Rachida Dati ne le fait pas, puisqu'elle dit qu'il a eu des faveurs contraintes.
Forcées.
Forcées. Rien dans l'enquête, pour le moment, n'a prouvé cela. Et quand il dit, lui, mais j'ai trois décisions de justice, ouais, des non-lieux ou des classements sans suite. C'est des décisions d'organes judiciaires, mais ce n'est pas des décisions de tribunal. Il n'y a pas eu d'enquête judiciaire permettant d'arriver à un jugement.
Mais ce qui est intéressant, c'est que les manifestantes, elles mettent la question sur le plan éthique, en disant que, au-delà du juridique, ce qui émane de ces affaires, c'est un comportement vis-à-vis des femmes.
Voilà. Moi, je suis de ceux qui pensent que dans un état de droit, il n'y a rien au-dessus du droit. Et que c'est tout à fait contestable d'avoir des positions pareilles. Mais c'est leur position. Et c'est des positions visibles dans la sphère publique. Partout où il va, il y a des manifs. C'est souvent des mini-manifs, mais pas complètement mini non plus. Et si ça continue à monter, alors a fortiori, comme le dit Frédéric, si son statut judiciaire se met à changer, mais je dirais, même s'il ne change pas, ça devient de plus en plus dur à gérer pour lui et pour le président de la République et le Premier ministre, dont c'est en fait le gouvernement qui sera éclaboussé. Donc juridiquement, je ne vois aucune raison aujourd'hui pour qu'il s'en aille, et il n'y en a pas. Et moi, je trouve que la présomption d'innocence est une vraie raison pour qu'il puisse rester. Mais en même temps, ce trouble dans l'opinion publique est un obstacle à une bonne gouvernance.
L'impact de ce type d'affaire et de cette affaire en particulier sur l'opinion, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Ce qu'on peut en dire, en effet, c'est, enfin, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est que, en effet, sa cote de popularité, elle est quand même assez basse. Hein, elle est autour de 27%. Elle est en net recul chez les femmes. Et donc, du coup, ça laisse des traces. Il y a aussi des maladresses. Hein, l'extrait que vous montriez sur on s'est parlé d'homme à homme, comme si on pouvait régler ce genre de questions de cette façon-là, ça laisse des traces. Et,
surtout quand on dit d'homme à homme.
Hein. Tout à fait, voilà. Et donc, on voit bien que ça donne aussi du grain à moudre à des associations féministes qui arrivent de plus en plus. En effet, c'est des mini-manifs, mais elles sont très visibles. Elles arrivent à avoir un écho beaucoup plus large. Donc, c'est vrai qu'en matière d'opinion, il y avait un des conseillers qui disait « c'est un sparadrap qui dure un petit peu plus longtemps que prévu ». C'est vrai que le sparadrap, il s'en va pas. Alors, il y a la trêve estivale, mais à la rentrée, il y a de fortes chances de penser qu'à chaque intervention de Gérald Darmanin, il y aura des problèmes. Après, peut-être pour ce qui est compliqué pour le gouvernement, c'était qu'en plus, le casting était plutôt dans une optique de la présidentielle, sur une thématique sur laquelle, encore une fois, le régalien, la sécurité, Emmanuel Macron est quand même souvent très absent, pas très à l'aise. Là, en voulant aspirer un peu l'espace à droite, il avait quelqu'un qui pouvait, en effet, tout à fait orchestrer ça. Mais là, de fait, les marques qu'il laisse dans l'opinion laissent penser que ça va être quand même beaucoup plus compliqué que prévu.
Le rôle de Gérald Darmanin, Frédéric Saïs, c'est aussi de permettre à Emmanuel Macron de se border à droite sur les thèmes régaliens, sur la laïcité.
Oui, sur la délinquance, sur laquelle il s'est beaucoup investi effectivement dans ce mois de juillet. Et d'ailleurs, les deux sont peut-être liés. C'est assez frappant de voir qu'il a surinvesti ce costume de premier flic de France, peut-être pour regagner effectivement quelques points de popularité, en tout cas pour être identifié non plus sur les affaires dont on a beaucoup parlé, mais sur ce côté j'annonce de nouvelles forces de police, je dis que c'est inacceptable. Aujourd'hui, dans le sud, à Toulon, il a parlé de la drogue, etc. Ouais. Et puis ce mot d'ensauvagement qui a fait... évidemment beaucoup polémique et qui, à mon sens, était fait pour faire polémique, évidemment, parce que immédiatement, une partie des médias, une partie des éditorialistes, une partie de l'opposition est tombée à bras raccourcis sur Gérald Darmanin en s'interrogeant sur ce mot, etc. Ça a un petit peu fait diversion. Moi, ça me fait penser à l'été 2010, quand il y avait l'affaire Bettencourt et que Nicolas Sarkozy était au pouvoir. Mediapart sortait chaque jour une nouvelle révélation. Oui. Vous savez, c'était cette affaire de financement occulte présumé de la campagne. Et Sarkozy ne s'en sortait pas. Il ne savait plus comment ne pas subir ces assauts répétés des révélations de la presse. Et il a fait le fameux discours de Grenoble, discours extrêmement offensif à cet été 2010 sur la délinquance, sur l'immigration, il liait les deux, sur les gens du voyage. Et immédiatement, l'ensemble de l'appareil politique et médiatique qui le suit s'est mis à parler des mots de Nicolas Sarkozy et plus du tout, ou presque plus, des affaires. In fine, ça n'a accouché de rien du tout. Il n'y a eu aucun changement dans la loi suite à ce discours de Grenoble qui était, pour le coup, je montre les muscles. Mais force est de constater que ça a été efficace. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy a même gagné quelques points lors de cet été 2010.
Ça devient un handicap, Gérald Darmanin, pour Emmanuel Macron et non pas Nicolas Sarkozy. Il lui a marqué son soutien aujourd'hui en se déplaçant avec lui à Toulon.
Oui, exactement. Et Jean Castex était à Lille et à Roubaix aussi, accompagné du même Gérald Darmanin. Donc le message de l'exécutif est pour le coup assez clair. On lui a fait confiance. En l'état actuel de nos connaissances et du développement de l'information judiciaire qui est dirigée par un juge d'instruction, pour le coup, on n'a pas de raison ni de se séparer, ni même de faire semblant de le mettre un peu à l'écart, comme c'est arrivé avec certains ministres que je qualifierais de tricards qui étaient pris dans des affaires. Là, pour le coup, le gouvernement et l'exécutif font bloc.
Emmanuel Soufi, ça peut rendre plus compliqué une rentrée où il sera en principe essentiellement question d'économie et de social.
Oui, et puis ça peut rendre compliqué justement toute la cause des femmes. Hein, c'était aussi une des causes quand même du gouvernement, hein, des plans de lutte. Comment être audible aujourd'hui sur tout ce qui est égalité femmes-hommes, égalité salariale, accession à des carrières techniques, accession aux responsabilités, partage de la charge mentale, enfin tous ces thèmes qui occupent l'esprit des Français, des Françaises. Sur lesquelles aussi les associations féministes sont très revendicatives et très actives. Comment aujourd'hui la nouvelle secrétaire d'État pourrait être audible et le gouvernement crédible sur ces questions-là?
Pierre Kérol, moi ça m'amène la question des...
Pierre, c'est mon frère, mais...
Ah, Roland Kérol, pardon, c'est mon côté Radio France Inter. La question des capteurs. C'est-à-dire, les gilets jaunes, on ne les avait pas vus venir. 80 km/h, le gouvernement ne les avait pas vus venir. Là, cette histoire-là, on ne l'a pas vue venir. Il y a un problème de capteurs, toujours, même si on a commencé en parlant de territoire, de déplacement, de terrain.
Bah, si gouverner, c'est prévoir, c'est embêtant de ne pas prévoir les choses. Mais ça arrive. Je veux dire, il n'y a aucune espèce de raison qu'on puisse ni savoir à l'avance comment l'opinion publique va réagir, ni même connaître toujours la vérité des faits. Les gouvernants ne sont pas absolument au-dessus des capacités humaines, mais c'est vrai que ce que vous avez signalé, ça existe, et que chaque fois, là, pour le coup, l'opinion le ressent. Mmh. Comment ça se fait qu'ils ne savaient pas ?
Ça peut poser un problème de solidarité gouvernementale entre Gérald Darmanin et, par exemple, Marlène Schiappa.
Marlène Schiappa, je crois qu'elle s'est fait une leçon en ce moment, de dire que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème et qu'elle ne voit pas où serait le problème. Elle est très bonne pour se convaincre de pratiquer la langue de bois quand il le faut. Donc ce n'est pas à mon avis de ce côté-là que ça va venir. Mais je crois que certains ministres commencent à être un tout petit peu gênés aux entournures. Ce n'est pas encore un risque de dissolution de la solidarité ministérielle. Aujourd'hui, Frédéric l'a dit, l'exécutif fait bloc. Et le principe de la présomption d'innocence, dont j'ai dit par ailleurs que c'était un vrai principe, il est très utile dans ces cas-là pour dire, voilà, nous, présomption d'innocence. Mais on sent bien que ça risque et ça devient un tout petit peu, gênant. On a un collègue dont on aimerait être un peu plus sûr.
Alors, dans ce gouvernement, on va passer de la police à la justice. Il y a un autre ministre suivi de très près, c'est celui de la justice, Éric Dupond-Moretti. Depuis un mois, l'ancien avocat vedette doit passer du ministère de la parole, où il excelle, où il est à peu près inégalable, à celui des actes, les relations avec l'administration, les différents acteurs d'un domaine de la justice où il n'a pas que des amis. Laura Rado, Barbara Steck et Émilien David.
En échangeant la robe d'avocat pour le costume de garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti a choisi de plaider en faveur de l'apaisement.
Je ne fais de guerre à personne. Je veux avec vous garder le meilleur et changer le pire. Je serai le garde des Sceaux du dialogue et j'accepterai la contradiction dont j'ai toujours été le fervent défenseur.
Changement d'habit, changement de style. L'ex-ténor du barreau veut rassurer les magistrats, eux qui ont qualifié sa nomination de déclaration de guerre. Une colère partagée par les associations féministes. Elles non plus n'ont pas oublié ses propos contre le mouvement MeToo, comme le rappelle cette députée de la France Insoumise.
Il dit également qu'un féminicide, et là il répondait à Marlène Schiappa, le féminicide serait un nouveau crime, dit-il, monsieur Dupond-Moretti. Alors, si c'est une femme qui tue un homme, c'est quoi? Un andricide? Donc ça veut dire qu'il ne comprend pas la spécificité des violences faites aux femmes.
Pour son ex-associé, ces critiques de la part des juges ou des féministes ne sont qu'un mauvais procès.
Quand on est avocat, on s'exprime pour une personne dans un cadre donné. On peut utiliser les mots qu'on veut et ça ne sera pas le cas du ministre de la Justice. Ce n'est pas une guerre qu'il engageait. C'était le fait que quand on est avocat, on veut une relation de confiance et une bonne relation avec son juge. Et ce qu'il a dénoncé, ce n'est pas les juges. C'est des juges qui voient l'avocat parfois comme un ennemi, comme un adversaire, alors que nous, on cherche à en devenir les partenaires.
Mais avant d'affronter les juges, Éric Dupond-Moretti a dû d'abord se frotter aux députés. Sur les bancs de l'Assemblée, le jeune ministre se montre très embarrassé.
Est-ce qu'on décompte les interruptions?
Non, on ne décompte pas.
Ah ben voilà.
On souffre en silence.
Voire carrément perdu.
54.
Je suis d'accord sur l'amendement qui vise à rendre... Voilà, c'est l'article 342-13. Putain,
c'est quel nom? C'est le 358.
C'est ça.
Il l'a maintes fois répété, sa connaissance de la justice est charnelle et non pas technocratique. Le nouveau garde des Sceaux choisit donc de jouer la carte de l'humilité.
Moi, je n'ai pas honte de dire que j'apprends mon métier. J'en apprends les codes, ce ne sont pas les miens. J'ai 59 ans, j'ai été 36 ans avocat. C'est pas du tout la même chose. Quand on est avocat, on a un objectif, c'est faire triompher la vérité de celui qu'on défend.
Sur sa feuille de route, les mesures de sûreté en matière de terrorisme, la justice des mineurs et le statut du parquet. Il veut rendre une bonne fois pour toutes les procureurs indépendants du pouvoir politique. Une réforme qui suppose l'accord des deux chambres réunies en congrès. Face aux sénateurs, le ministre assure un peu vite avoir obtenu l'accord du président.
Et il s'agit d'inscrire, de graver dans le marbre de la Constitution une pratique que ce pouvoir a toujours respectée. Voilà, donc la réponse est oui.
Vous nous annoncez aujourd'hui que le président de la République va convoquer le Congrès pour faire adopter définitivement cette révision de la Constitution qui a été votée en termes identiques par les deux chambres.
C'est ce qu'il a dit.
C'est un scoop.
Trop sûr de lui, l'ancien avocat sera finalement obligé de revenir sur ses déclarations. Éric Dupond-Moretti, qui a réservé sa première visite à Fresnes, il promet de donner plus de moyens aux prisons. Le garde des Sceaux dit vouloir être jugé sur ses actes. Il lui reste moins de 600 jours pour faire ses preuves.
Roland Cayrol, pour vous, question cash de Clément dans le Calvados. Dupond-Moretti est-il suffisamment formé pour être garde des Sceaux ?
Écoutez, y a les choses évidentes, drôles. Le sujet qu'on vient de voir, bon, c'est un type qui n'a pas les codes d'un garde des Sceaux. Ça me paraît pas très important, il va les acquérir. Ce qui me paraît plus problématique, pour le coup, c'est un changement dans la ligne d'analyse d'Éric Dupond-Moretti. Et quand on a une personnalité forte qui entre au gouvernement, on attend aussi d'elle qu'elle soit fidèle aux principes pour lesquels, normalement, elle a été nommée. Moi, je me rappelle la première interview d'Éric Dupond-Moretti dans le journal du dimanche. Le journal m'était tombé des mains, non pas à cause du journal, mais à cause de l'interviewé. Okay,
Sophie, tout va bien.
Qui disait, par exemple, vous vous rappelez, cette loi qui a été déjà, je crois, votée au Sénat, mais pas encore à l'Assemblée, qui veut que des gens qui ont été accusés pour des faits liés au terrorisme et qui ont accompli leur peine, lorsqu'ils sortent, puissent être désormais soumis à des privations de liberté, comme le bracelet électronique ou des convocations au commissariat. Dupond-Moretti nous avait dit 100 fois, comme tout juriste républicain, que c'était une rupture avec les principes mêmes du droit pénal français que nous avons hérité de la Révolution. Quelqu'un qui a accompli sa peine ne peut pas être, etc. Il répond au journal du dimanche, et il va ensuite le préciser devant le Sénat.
Il dit qu'il a changé d'avis.
Il dit qu'on lui a expliqué que ça n'était pas une privation de liberté. Alors que le Conseil constitutionnel a déjà jugé que le port du bracelet électronique est une privation de liberté. Quand vous avez eu un bracelet électronique, puis que vous êtes condamné à de la peine de prison, on retire de votre temps de prison le temps de bracelet électronique, ce qui prouve bien que ça fait partie des privations de liberté. Changer d'avis sur un thème aussi fondamental, ça me fait bizarre. Plaider pendant des années pour la séparation du parquet, les procureurs, et des magistrats du siège, les juges, et puis dire, ben finalement, on m'a expliqué qu'on n'aurait pas le temps, donc je laisse le dossier tomber. Voilà plutôt des évolutions, mais je pourrais en citer 5 ou 6, qui, moi, me posent problème dans l'action de Dupond-Moretti. Encore une fois, ce n'est pas juste des paroles, le fait qu'il balbutie, le fait qu'il n'ait pas l'habitude du brouhaha. Bon. Mais si le Dupond-Moretti, pour lequel on avait un certain admiration, respect, estime, je ne sais pas comment il faut dire, mais il avait ça dans l'opinion publique, il a oublié ce Dupond-Moretti-là. Voilà, ça me pose un petit problème. Alors, il annonce qu'il y a plein de choses sur lesquelles il restait fidèle à lui-même et qu'on va voir ce qu'on va voir. Même dans les 15 jours, il semble qu'on aura des propositions de réforme qui iraient dans le sens de ses analyses d'avant. Je dois dire que je suis un peu désarçonné par ses débuts.
Marie Garriazzo, ces débuts, est-ce qu'ils impriment dans l'opinion? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un ministre populaire?
Alors, je dirais qu'il est
trop tôt.
C'est difficile
à mesurer.
Ouais, c'est difficile à mesurer. En tout cas, si, dans le tableau de bord des personnalités politiques, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est plutôt encourageant. Et puis, c'est un des rares ministres, en fait, issus de la société civile, qui est connu, voilà, donc je rejoins tout à fait Roland Carole sur le fait qu'il n'ait pas les codes ou qu'il bafouille, on ne va pas lui reprocher. En plus, c'est vraiment un des rares issus de la société civile, mais en revanche, il est beaucoup trop tôt
mais
pour savoir
s'il imprime. Mais il faut aujourd'hui des ministres issus de la société civile qui aient une notoriété autre dans un gouvernement. Ça, c'est important, on regarde l'opinion.
Je ne sais pas si c'est si important que ça. C'est-à-dire que dans la composition de ce gouvernement qui a été annoncé comme étant un grand changement, finalement, les gens s'accrochent aux rares personnes qu'ils connaissent, Roselyne Bachelot, Éric Dupond-Moretti. Mais c'est difficile de savoir, parce que là où les Français vont juger, c'est sur les résultats. Et là, il est encore évidemment trop tôt pour le dire.
Vous diriez que c'est un politique ?
Non, c'est un expert. Ça fait partie de ces ministres un peu experts. Et encore expert. C'est ce que vous disiez, le Roland Carole. Hein. Oui. Il connaît un bout de la justice. Hein. Il était de l'autre côté. Hein. Il n'était pas côté magistrature. Hein. Et c'est en cela que sa nomination reste... C'est une personnalité clivante du monde judiciaire, quand même, Dupond-Moretti. Et encore une fois, pour faire la boucle avec le sujet précédent, c'est aussi une victoire des féministes. Donc si, encore une fois, vous vouliez essayer de réconcilier un peu les Français, les Françaises, et montrer que le gouvernement était à l'écoute sur certains sujets, notamment la question de la place des femmes et d'égalité, certains propos, on passe encore très très mal du côté des collectifs. Et pourquoi pas, hein, quand il se déplacera, il aura sans doute, je pense, dans certains endroits, des comités d'accueil.
Il est de droite ou de gauche, cet homme-là ?
Alors, c'est très intéressant parce que justement, effectivement, sur la question féministe, sur MeToo, etc., il est très contesté par certaines associations féministes. On oublie parfois de préciser aussi qu'il est très contesté à droite et à l'extrême droite sur ses positions sur l'immigration, qui sont jugées trop bienveillantes, trop bisounours, ou encore quand il avait soutenu le fait qu'il fallait rapatrier les djihadistes français qui sont en Irak et en Syrie. Donc il est assez inclassable pour l'instant. Moi, il me semble relativement politique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'il est assez stratège. Le côté un peu « je bredouille, je suis modeste », alors pas tout le temps, mais quand vous le voyez en interview, avec les genoux serrés, les mains comme ça, un peu penaud, il veut se départir de son image d'acquittateur qui plaide aux assises et qui fait trembler les murs. Il est dans la posture de l'humilité, ce qui est déjà une forme de calcul politique. Et puis, au-delà de sa personne, il y a sans doute aussi le fait, derrière ce choix, pour Emmanuel Macron et Jean Castex, d'en finir avec le gouvernement des technos ou des experts de leur propre domaine qui avaient marqué le début du quinquennat. Nicole Belloubet à la justice, Muriel Pénicaud, ancienne DRH au travail, ou encore Françoise Nyssen à la culture, qui n'étaient pas des grandes gueules, ce qui était un avantage, mais ce qui, sur les plateaux télé, dans les journaux et face à l'opposition, très vite posait problème.
Est-ce que Roland Kayrol, sa place dans le dispositif, c'est aussi une place dans l'hypothèse 2022, dans la perspective de 2022, d'être celui qui va répondre au Rassemblement national ?
Alors là, pour le coup, je pense qu'il est trop tôt pour le dire. On va voir comment il va être pendant ces 600 jours. Et je crois que c'est aussi une façon pour Macron de le tester, de voir si ça devient un ministre vraiment politique et qui peut être utile dans les bataillons qui participeront à la campagne. Aujourd'hui, franchement, je n'en sais rien et mon impression, c'est que personne n'en sait rien. Je ne suis pas sûr que c'est l'envie de Dupond-Moretti, peut-être. Et pour le moment, je ne suis pas sûr que ce soit l'envie sans doute aussi, mais la volonté du président de la République, je crois que ça dépendra du succès et du succès d'opinion de Dupond-Moretti aux manettes de Garde des Sceaux.
Du ministère de la Justice. Nous passons à vos questions à présent. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est-il un handicap pour le Premier ministre ? On a déjà abordé ça, Frédéric Seyss, rapidement. Handicap ou pas ?
Il l'est à plusieurs termes, effectivement, on l'a abordé. D'autant plus pour le Premier ministre que Jean Castex a dit publiquement que c'est lui qui avait insisté pour que Gérald Darmanin soit nommé. Ils ont en commun Xavier Bertrand, qui est leur ami. Et donc, Jean Castex a pris lui-même une responsabilité dans cette nomination. Il ne pourra pas faire Ponce Pilate et dire « je ne savais pas, je m'en lave les mains ».
Ce nouveau gouvernement évoque beaucoup l'insécurité. Cette vieille recette de droite marche-t-elle encore pour séduire les électeurs ? Marie Gagliazzo.
Ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron poursuit son virage à droite, hein, qu'il répond à une aspiration des Français malgré tout, puisqu'on a un dernier sondage qui a été réalisé il n'y a pas longtemps pour Le Point sur un auto-positionnement de gauche à droite, et on voit bien qu'il y a un glissement de la population française donc, sur ce terrain-là. Donc Emmanuel Macron suit ce glissement. Le thème de la sécurité là, réapparaît très fortement, alors certainement accentué aussi par le confinement qui a tué les questions de délinquance. Hein. Et c'est un thème sur lequel la droite a toujours souhaiter des réponses fortes. Et puis, c'est vrai que si on... Alors, on ne se projette pas en 2022, mais que face à Marine Le Pen, il va falloir trouver un moyen d'aborder cette question. Et donc, c'est certainement cela qu'a en tête Emmanuel Macron, qui poursuit, de notre point de vue, plutôt un glissement vers la droite que de l'autre côté.
Sur ce thème, Roland Kayrol.
Écoutez, je crois qu'on ne peut pas faire une campagne pour Macron, qui vient de « et gauche et droite ». On ne peut pas imaginer une campagne qui soit simplement centrée sur ces thèmes préoccupants pour les électeurs de droite et du centre, qu'est l'insécurité. Il faut attendre les volets social et écologiste. Et je crois qu'il va essayer de nous faire vraiment du en même temps. C'est-à-dire qu'à mon avis, lorsqu'on dit qu'il y a eu un virage à droite et que c'est désormais l'axe d'Emmanuel Macron, je pense qu'il faut attendre des surprises relatives du côté des mesures écologistes. Imaginez l'idée, par exemple, de mettre... en pratique, la plupart des 146 propositions de la Convention citoyenne sur l'écologie. Imaginez que vous vous contentez d'en sortir une tous les deux jours. Ça veut dire que jusqu'à la présidentielle, vous avez de quoi alimenter les réformes faites au nom de l'écologie. Ça peut être pas mal. Et sur le social, c'est le traitement de la crise post-Covid qui va montrer qu'on fait quand même un effort supérieur à tous les pays européens, à tous les pays du monde, pour aider les gens à s'en sortir. Donc je crois qu'il faut... Il y a une espèce de glissement progressif vers là où sont les électeurs de Macron pour le moment. Il a été abandonné par un certain nombre d'électeurs de gauche et écologistes. Mais il ne faut pas imaginer que les résultats des municipales soient prédictifs des élections nationales. Ça n'a en général aucun rapport. Donc je crois que les cartes sont sur la table et que le jeu de Macron, c'est bien sûr... d'enfoncer l'accélérateur côté sécurité, mais aussi d'avoir des volets social et écologistes qui tiennent la route.
Question de Gérard dans la Manche. Beaucoup de promenades et de communications, mais le reste, je regrette Philippe, nous dit-il. Je n'étais pas toujours d'accord, mais je le respectais. Il y a beaucoup de com' pour l'instant, plus que de décisions.
Et fait déjà qui occupe le terrain pour être connu, hein, pour que c'est des caméras, hein, donc c'est un visage qu'on voit, c'est un Premier ministre qui commence à être un petit peu reconnu, hein, Jean Castex. Je suis pas sûre, malheureusement, que tous les Français aient encore son nom en tête. Et puis surtout imprimer une rompre un peu le style, la patte Castex, même si bon, les observateurs essayent de la définir, mais c'est encore un peu flou. Donc oui, c'est l'action, montrer quand même le gouvernement. Le monde ne s'est pas endormi, il ne va pas s'endormir avec la trêve estivale. Et puis, imprimer un visage, en fait, aussi. Une politique et un visage.
Et Édouard Philippe, que devient-il? Est-ce qu'il y a une nostalgie, Édouard Philippe?
Pour l'instant, il se repose de manière assez évidente après avoir subi toutes les crises qu'on connaît, gilets jaunes, etc. Oui, c'est très particulier de voir un Premier ministre qui soit parti avec une cote de popularité aussi haute et qui était même en croissance, si je ne m'abuse. Donc, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout cramé comme l'était, par exemple, Jean-Pierre Raffarin ou Jean-Marc Ayrault à la mi-temps, si on peut dire, des quinquennats précédents. Et c'est quelqu'un, à l'évidence, qui veut jouer un rôle dans l'avenir après une petite période de retour vers le local, de réalisation concrète dans sa ville du Havre, il a sans doute marqué les esprits des électeurs au moins de droite.
Marie Gariazzo, finalement, il n'y a que Roselyne Bachelot qui fasse l'unanimité, nous dit ce téléspectateur ou cette téléspectatrice. Dans l'opinion, c'est le cas ou
pas? Oui, c'est vrai. Enfin, alors pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, dans ce fameux tableau de bord des personnalités, Édouard Philippe arrive très haut, en deuxième position, je crois, juste avant Roselyne Bachelot. Donc c'est en effet la ministre la plus appréciée par l'opinion.
Pourquoi ?
Alors j'imagine qu'elle bénéficie à la fois de... déjà c'est une grande gueule, hein, comme on le disait précédemment, et ça manquait quand même pas mal chez les marcheurs. Et puis deuxièmement, je pense qu'elle bénéficie aussi de la façon dont elle avait géré la crise H1N1, avec toute la façon dont elle avait été montrée du doigt, un peu ridiculisée, et puis finalement réhabilitée avec la crise sanitaire actuelle. Et puis voilà, je pense que c'est quelqu'un qui dit... puis elle a la culture, c'est quelque chose qui peut lui correspondre. Elle trouve du coup une adhésion assez forte dans l'opinion, mais encore une fois, il faudra voir ce qu'elle fait plus concrètement.
Oui, parce qu'elle est ministre d'un secteur qui a beaucoup
trinqué souffert. Et qui risque de souffrir encore très fortement.
Je vous voyais opiner du chef Roland Cayrol à propos de cette popularité de Roselyne Bachelot et de ses ressorts.
Non, mais je crois que c'est tout à fait vrai. Et puis c'est quelqu'un qui a eu l'occasion dans sa carrière politique de faire plaisir à tout le monde. C'est-à-dire qu'elle a été une députée de droite, une ministre de droite, elle est très identifiée par les gens de droite comme venant de leur camp, mais elle a voté toutes les réformes sociétales de la gauche. Elle était à peu près la seule à se battre pour le mariage pour tous, pour l'ensemble des mesures de ce genre. Donc voilà, elle est, je dirais, presque comme Simone Veil, de ces personnages qui peuvent être récupérés par toutes les sphères de l'arc-en-ciel politique. C'est pas quelqu'un de droite. C'est pas assurément quelqu'un de gauche, mais c'est quelqu'un qui est capable de dire des choses avec lesquelles beaucoup de gens sont d'accord, pas forcément tous au même moment, mais il y a eu presque pour tout le monde des moments d'adhésion à la personne de Roselyne Bachelot. Et comme à la télé, elle est devenue une espèce de vedette cash, ça fait un personnage que pour le moment, dont on comprend qu'elle soit en tête des sondages.
On entend peu l'opposition, prend-elle des vacances, Emmanuel Soufi?
Laquelle? Celle de droite, celle de gauche?
Les deux en général.
D'accord. Écoutez, à droite, ils cherchent déjà aussi quelqu'un pour incarner un peu... parce que Wauquiez a un peu disparu quand même. Donc une figure qui pourrait incarner aussi, et puis les idées également, qui vont
on
avec.
On entend pas mal Nicolas Sarkozy donc, cet été.
Nicolas Sarkozy, mais bon, il est en promotion aussi, je crois. Et puis au milieu, vous avez Xavier Bertrand qui est quand même là, qui réfléchit, qui est toujours dans son laboratoire économique et social régional, qui a fait de son territoire un peu une usine à idées et qui se prépare ardemment et qui a une bonne longueur d'avance sans doute par rapport à d'autres membres des Républicains et à gauche. Pareil, figure idée. Donc l'opposition est un peu timorée, silencieuse.
Frédéric Seyss, sur ce thème.
Oui, c'est aussi le fait qu'il n'y ait plus de Conseil des ministres, donc il y a moins de demandes de réaction de la part de la presse nationale. Et effectivement, quand Jean Castex, avec la force des institutions, se déplace quelque part, il attire des caméras, il attire de la presse nationale et régionale. Chaque fois, il donne des interviews, d'ailleurs, dans ce qu'on appelle la PQR, la presse quotidienne régionale. Si un député lambda, j'allais dire, fait un déplacement, etc., il n'y aura évidemment pas la même caisse de résonance. Et puis, par ailleurs, c'est sans doute le fait qu'ils reprennent des forces avant une rentrée où ils vont devoir aussi bien batailler sur notamment le plan de relance.
Avec ce Premier ministre assez présent, le président va-t-il prendre du recul ou au contraire devenir lui aussi plus présent? Comment gérer cet équilibre, Roland Cayrol?
C'est en effet un équilibre, c'est-à-dire que il faut pas se tromper, on est dans un système, c'est vrai depuis le général de Gaulle, où c'est quand même le président de la République qui décide. On fait mine à chaque quinquennat ou septennat de découvrir que les fils de la politique mènent à l'Élysée. C'est comme ça, c'est la Ve République. Donc évidemment, les grandes décisions, et même les petites décisions, c'est l'Élysée qui les prendra. Évidemment, c'est bien d'avoir un Premier ministre et quelques ministres qui tiennent la scène médiatique. Ça permet de moins user son propre crédit en étant en permanence sur la braise. Mais en même temps, quand il faut, il parle. Et rappelez-vous, la première année, les 6 premiers mois, il n'a pratiquement pas parlé de son quinquennat, Macron. Il a compris qu'on ne pouvait pas éliminer la variable opinion ni la variable journaliste. Et donc il s'y est mis. Je crois qu'il y a pris un certain plaisir et je crois qu'il a vu que c'était indispensable. On n'est plus comme du temps du conseiller en communication de François Mitterrand, voilà, de Jacques Pilon, pour qui on disait faut sortir de temps en temps, rarement, faire du bruit et rentrer dans la forêt et attendre 6 mois pour refaire du bruit. Non. Aujourd'hui, la vie médiatique, ça fait partie de la vie institutionnelle. Ça suppose qu'on sorte plus souvent. Donc, ce sera un équilibre, en effet, à respecter.
Castex, Darmanin, Dupond-Moretti, Bachelot, quelles réformes importantes pourront-ils mener en si peu de temps, nous demande Gérard dans les Bouches du Rhône. Emmanuel Souffi.
Il y a beaucoup de priorités à gérer. Il y a une réforme qui est très attendue par les Français et qui devrait enfin démarrer, si je puis dire, c'est celle du grand âge, de l'autonomie, de la dépendance.
C'est partie des annonces aujourd'hui à la rentrée.
Des annonces, c'est un plan que Agnès Buzyn avait commencé un peu sur lequel elle travaillait. Il y a eu quelques rapports Libault notamment. 10 milliards d'euros à trouver. Alors vous allez me dire, c'est une paille. Finalement, aujourd'hui, quand on regarde 10 milliards versus 100,
Roland Cayrol nous disait que l'argent n'était pas un problème.
Quand même un 10 milliards, c'est rien. Un petit effort pour nos personnes âgées et à ce que nous allons tous devenir. Donc oui, je pense qu'il y a cette réforme-là. Pour le coup, elle ne peut plus attendre. Et s'il y avait une priorité par rapport à celle des retraites, c'est bien celle-là à mener. Celle-là, et puis après, attention à ces cohortes de plans sociaux que chacun redoute dans les TPE, les PME. C'est là que c'est plus important que dans les grands groupes.
Voilà. Frédéric, la question du chronomètre, elle est clé. Oui. D'abord parce qu'on arrive à la fin de l'émission, mais aussi parce que voilà, il y a moins de 2 ans et il y a une campagne électorale qui
Oui, on parle beaucoup des 600 jours, mais c'est même encore beaucoup plus que le temps utile, entre guillemets, puisqu'on sait qu'à 1 an d'une élection présidentielle, la campagne est déjà en train de commencer avec tous les nouveaux venus et les figures de chaque parti qui veulent se faire valoir. Et donc, vous n'avez plus vraiment l'occasion de mener des réformes durables. C'est le cas de Éric Dupond-Moretti qui finalement ne pourra pas changer la machine judiciaire, il pourra juste mettre un peu d'huile dans les rouages, pas plus.
Et j'ai une dernière question pour jouer avec le chrono. Jean Castex pourrait-il ne pas être le dernier Premier ministre du quinquennat? Roland Cayrol, vous avez 3,5 secondes.
Alors ça serait extrêmement surprenant. Je pense que ça sera le deuxième et qu'il restera le second.
Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Rediffusion ce soir à 22h35 et pour le direct, je vous retrouve avec grand plaisir demain autour de 17h45. Bonne soirée sur France 5.